Bien voilà, donc on est pour cette rencontre encore donc avec autour du thème de la liberté. Donc bienvenue à l'église Saint-Eustache, hein, qui est venue donc, pas très loin avec le temps, qui est représentée dignement. Ça marche, on peut parler un peu plus fort, hein. On peut parler un peu plus fort, si ça marche fort, mais... Non mais ça va, je crois qu'on peut parler plus près du micro, ça... Mais normalement, bon, ça passe avec, à peu près avec la voix, sinon peut-être faut qu'on parle plus fort. Donc le thème là, c'est la liberté au service de l'autre. On avait choisi ce thème en se disant, il y a la liberté du chrétien, mais c'est vrai que peut-être comme dans le décalogue, si vous voulez, les 10 paroles, ce qu'on appelle parfois les 10 commandements, un peu bêtement, parce que la première des 10 paroles n'est pas un commandement, c'est l'idée d'un Dieu qui est libérateur, libéré hors d'Égypte. Et puis ensuite, le reste, ben, effectivement, propose un chemin, en fait, pour cette liberté, pour informer cette liberté. Alors là, on va voir que ce n'est pas comme ça tellement sur le mode de la loi, c'est-à-dire de la consigne qui est donnée. D'ailleurs, ça commence avec cet incroyable « tout est permis », qui sonne un peu mai 68, si vous voulez. Voilà, c'est interdit d'interdire, tout est permis, lâchez-vous. Sauf qu'il y a un mais qui suit, et qui effectivement, à mon avis, est constructif, est intéressant. Et donc c'est dans cet écart, hein, dans ce tout est permis, qui est vraiment le propre de l'Évangile, peut-être, qui est assez original pour, comme religion. Une religion où tout est permis, c'est quand même incroyable. Souvent, on dit que la religion, c'est une des deux étymologies possibles. La religion, c'est d'abord la règle, ça fixe une règle. Religion, ça peut vouloir dire relier aussi. Ben, c'est peut-être plus ça, voilà, qui est proposé finalement. Donc une religion sans règle, mais avec quand même un mais, savoir voilà, qu'est-ce qu'on va faire de cette liberté qui nous est donnée en Christ. Donc c'est un peu la question du jour. Et on a proposé finalement des petits extraits comme ça de 1 Corinthiens, de la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, pour essayer de voir un petit peu comment... pour réfléchir sur cette question. Alors ça part du « tout est permis » de 1 Corinthiens 6 jusqu'au « tout est permis » de 1 Corinthiens 10 finalement, puisqu'il y en a deux des « tout est permis » dans cette lettre de Paul.
Bonsoir à tous. Effectivement, la dernière fois, vous vous en souvenez, on en était resté avec, enfin, si j'ose dire, parce que c'est un énorme corpus, l'Épître aux Romains, et on avait vu effectivement cette dialectique paulinienne entre la loi et la foi, et que le régime de l'esprit du Christ nous introduit dans le régime effectivement de l'absence de loi, de la non-loi et donc de la foi, parce que pour Paul quelque chose s'est joué dans la Pâque du Christ, dans la mort du Christ. Au fond, notre baptême nous a associés à la mort du Christ, donc comme dit Paul dans le chapitre 6 de la lettre aux Romains, lorsqu'on est mort, on ne pêche plus, puisqu'on est mort, eh bien, il y a quelque chose de nous qui est mort avec le Christ. Et ça, c'est important, parce que c'est la racine, en fait, de notre libération. Il faut qu'on soit plongé. Alors, évidemment, quand on baptise un enfant, on dit toujours qu'on le plonge dans la vie, dans la résurrection, c'est vrai. Mais bonsoir, Chantal. Mais on le plonge aussi dans la mort du Christ. Pourquoi la mort du Christ est-elle une bonne nouvelle? C'est parce que, effectivement, quand on est mort, on ne pêche plus. Et à partir du moment où en Christ, on est mort, il y a quelque chose de nous qui est mort, il y a un nouveau régime. Alors, on a souvent reproché à Paul, bien sûr, peut-être de minimiser les résistances de l'humanité qui font qu'on n'a pas toujours l'impression d'être mort et ressuscité avec le Christ. On n'a pas toujours l'impression que ce baptême... fructifie dans notre vie quotidienne. On est plutôt, en général, persuadé de notre faiblesse chronique, de notre incapacité chronique à entrer vraiment dans la foi, à entrer vraiment dans le plan de Dieu. Or, pour saint Paul, c'est vraiment fondamental. Il ne minimise pas du tout le fait qu'ensuite, il y a des rechutes, etc. Mais pour lui, à partir de la mort du Christ, il y a quelque chose qui est réordonné, qui est réintégré. Voilà, il y a une nouvelle manière de vivre la vie. Bien sûr, on n'est pas à la hauteur de notre baptême, etc. Mais il y a quelque chose qui a été joué. Et c'est ça la liberté. C'est une liberté, du coup, qui n'est pas une pure liberté politique, formelle, le rêve de l'esclave de vivre sans entrave, ou comme dit Aristote, de vivre à son gré, à sa guise, etc. C'est une liberté qui a une histoire. Et du coup, effectivement, tout est permis, certes, puisque nous ne sommes plus sous le régime de la Torah, mais cette liberté est une liberté qui nous est donnée par grâce, et donc il faut être à la hauteur de cette grâce, il faut être dans une forme de gratitude face à cette grâce. C'est un cadeau. Effectivement, tout est possible, tout est permis. C'est vertigineux, d'ailleurs. Il y a quelque chose dans la condition chrétienne qui est vertigineuse, puisqu'on découvre qu'on peut tout faire. D'une certaine manière, il n'y aura plus la Torah pour nous rappeler que nous avons transgressé quelque chose, mais tout n'édifie pas le royaume, donc tout n'est pas digne du chrétien. Et oui, alors juste une chose, parce qu'évidemment, pour situer historiquement, après le rappel de ce qu'on avait dit sur l'épître aux Romains, ici il s'adresse à une communauté qu'il connaît, contrairement aux Romains qu'il n'avait jamais visité. La communauté de Corinthe, c'est lui qui l'a fondée. Il l'a fondée au début des années 50 de notre ère, après l'échec d'Athènes. Vous savez, la mission à Athènes, qui est racontée dans les Actes des Apôtres, qui échoue, puisque les Grecs, les Athéniens, sur l'Agora, lui disent « Bon, tu viendras une autre fois nous parler de la résurrection des morts ». Et pourtant, Paul avait essayé d'adopter leur langage, de déployer toute son éloquence et même de s'adapter à la rhétorique grecque, parce qu'il était quand même, j'imagine, très intimidé, hein, petit rabbin juif qui fabrique des tentes et qui arrive comme ça à Athènes. Alors à Corinthe, il arrive à fonder une communauté, mais c'est un monde très différent d'Athènes. C'est un port, c'est un monde où on vit à la corinthienne, comme on dit, c'est-à-dire avec des mœurs assez typique des villes portuaires, c'est-à-dire un mélange des genres probablement incroyable. Et ils fondent une communauté essentiellement avec des païens, quelques juifs et des gens de milieux très, très mêlés. Puisque vous savez qu'il y a une querelle à un moment sur le repas du Seigneur. Certains ont ce qu'il faut et d'autres, parce qu'ils doivent travailler, arrivent en retard, ils n'ont plus rien. Et le repas du Seigneur est l'occasion donc de tiraillement dans la communauté. On voit bien que c'est une communauté très, on dirait aujourd'hui, très mixte, socialement très... Il y a une mixité culturelle, voilà. Parce qu'il y a des juifs et des païens, surtout des païens. Il y a des petites gens, puis il y a aussi des notables. Donc c'est une communauté intéressante de ce point de vue-là, qui ressemble beaucoup à ce que nous vivons aussi dans nos communautés. Et cette première aux Corinthiens est probablement une deuxième lettre. Voilà, ça c'est pour vous donner le cadre. Il y a sûrement une lettre qui nous manque. Probablement, y a-t-il eu quatre lettres, pense-t-on, écrites aux Corinthiens, puisque celle-ci fait allusion à une autre que nous n'avons pas. Donc on est dans les années 50. Paul retournera quelques années après, parce que la communauté est tiraillée par toutes sortes de débats. C'est un peu la 4e République de Gaulle, vous savez, honnie par De Gaulle. C'est le retour des partis, vous savez. De Gaulle détestait les partis. Eh bien, à Corinthe, il y a des partis. Il y a des gens qui se réclament de Pierre, d'autres de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Christ, quand même. Voilà, donc c'est une communauté assez divisée. Voilà un peu le cadre pour comprendre cet épître aux Corinthiens et pour comprendre aussi que l'idée que tout est permis, il y a un contexte moral qu'il faut avoir en tête.
Alors, c'est vrai que pour la liberté, là, ce qu'ils font, je t'écoutais, c'est vrai que dans le baptême, il y a l'idée, voilà, qu'on a une sorte de changement de logiciel qui est proposé. Finalement, on meurt à l'homme purement animal, dompté par l'instinct, et on est dans une nouveauté de vie, finalement, à une vie un peu christique. Donc ça, c'est l'eau qui vient arroser le désert et qui le fait fleurir, et puis le premier, c'est l'eau qui lave, qui nettoie, donc l'homme ancien. Donc là, il y a l'idée, effectivement, d'un changement de logiciel qui est quand même partiel pour nous. Donc ça, c'est peut-être la liberté qui est à venir. Donc on doit être enfanté comme libre, grandir dans la liberté. Et c'est vrai que ça, c'est, on le rappelait au début, on est appelé à la liberté. Donc la liberté, notre liberté, elle est en préparation, elle est en genèse, finalement. Mais il y a quand même une liberté qui, à mon avis, celle-là est donnée totalement, c'est celle de la grâce. C'est-à-dire que, voilà, tout est permis, parce que de toute façon, on ne va pas être jugé là-dessus. Notre dignité est de toute façon irréductible, elle n'est pas à la performance. Et ça, à mon avis, c'est quand même bon à noter. C'est-à-dire qu'effectivement, Dieu nous signe un chèque en blanc, dans un sens. Et c'est quand même extrêmement important, je pense, au niveau, par ailleurs, de l'éthique. Un handicapé mental a une même dignité qu'un polytechnicien qui courrait le 100 mètres en moins de 10 secondes, si vous voulez. Et qui saurait en plus jouer toutes les sonates pour violoncelle seule. Donc, si vous voulez, toutes les suites pour violoncelle seule. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'on n'est pas jugé sur la performance pour notre dignité. Et ça, c'est quand même important, je crois. Et c'est ça qui fonde le tout est permis. C'est ce qui nous permet d'oser poser des actes de liberté, poser des actes de véritable choix, et donc sortir d'une loi où on se dit je vais le juger sur une performance à la vie bonne, de croyance correcte, de choses comme ça. Alors ensuite, est-ce que c'est parce que Dieu nous a tellement aimés, qu'il a tellement donné, qu'il faudrait qu'on se comporte bien? Non, moi je crois qu'on doit rien à Dieu. Il nous a créés pour le plaisir, parce que c'était son bon plaisir, qu'il y a trouvé de la joie et qu'il a donné le Christ parce que ça lui semblait convenir pour son projet. Ben, on est très content qu'il en soit content.
Oui.
Il s'est éclaté. Moi, je dois rien, si vous voulez. Et je crois que le tout est permis, il y a ça aussi. Si vous voulez. C'est de la grâce pure. On ne doit rien. Et c'est vrai que ce n'est pas une sorte de prix à payer après avoir bien consommé. Non, c'est tout juste. Et à mon avis, c'est comme ça que ça commence. Tout m'est permis. C'est pas simplement tout est permis, tout m'est permis à moi personnellement. Le singulier, c'est quelque chose qui est dangereux, bien sûr. Parce que le singulier, tout m'est permis à moi, c'est quand même, ça disloque la communauté, bien sûr, ça disloque l'humanité. Tout m'est permis, c'est pas simplement tout est permis généralement, tout m'est permis individuellement à moi, tout m'est permis, mais tout ne convient pas. Alors j'ai regardé, convient. C'est en fait sumfero, et c'est ce qui porte ensemble, ce qui rassemble, ce qui construit. Parce qu'effectivement, le contraire, à la limite de sumfero, c'est diabalo, c'est le diable, c'est-à-dire qui disperse, qui divise, qui éparpille, qui transforme en chaos. Donc, alors ils ont marqué tout ne convient pas, donc c'est convenir, oui, parce que quand, vous voyez, ça convient bien. Si je mets, je sais pas quoi, un pull rouge vif sur un... sur une chemise vert pomme, ça ne va pas forcément convenir, parce que ça ne va pas bien ensemble. Voilà. Donc c'est l'idée que ça aille bien ensemble. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que voilà, on est plus l'idée de est-ce que ça produit du bien ou pas. Voilà. Est-ce que ça produit du bien? Est-ce que ça construit? Est-ce que ça... Alors, dans 10, le 10,
oui,
combien,
10, que...
23, c'est tout ne construit pas. C'est pas mal aussi. C'est un peu la même chose. Ça, c'est même plus général. Est-ce que ça convient, quoi? Est-ce que ça va bien avec la situation, avec aussi ce que je suis, avec mon projet, avec ma façon d'être, avec ce qu'en sont les autres? Et ça, c'est quand même une excellente question. Donc, finalement, ce qui est proposé, c'est plus une loi, c'est plus un chantage à l'affection, à l'amour, ou à ce qu'a donné le Christ pour nous, un machin. C'est plus un chantage à la dignité, ça va être performant pour gagner le ticket dans la vie future, pour être aimé par Dieu, pour machin. Non, c'est... Tu te dis, est-ce que ça fait avancer le schmilblick, finalement? Est-ce que ça... est-ce que c'est quelque chose... Et finalement, ce qui nous est proposé, c'est donc une méthode, plutôt. C'est plutôt un questionnement, disant, bah, écoutez, jugez-en vous-même. Et finalement, souvent dans Jésus, il y a ça, il dit, mais comment est-ce que vous ne pouvez pas discerner par vous-même, quand même? Vous êtes capable de voir que... Tout d'un coup, il y a un peu de douceur dans l'air, les feuilles sont venues sur les arbres, ben, c'est sans doute le printemps, quoi. Je veux dire, ça n'a pas besoin d'être là un génie pour deviner, on a l'habitude, donc on le sait, on peut deviner que c'est le printemps arrive. Ben, on devrait pouvoir, par notre intelligence, par notre foi, par notre bon fond, voir ce qui convient finalement. Donc ça, c'est la première chose, je trouve ça tout à fait génial, comme façon de proposer, comme confiance dans l'homme aussi, comme optimisme. On se croirait quasiment à la Renaissance en disant, mais en fait, l'homme est capable et est digne et est capable, quoi. Ou alors il est peut-être appelé à la liberté, appelé à être capable. Donc, ah oui, peut-être si je ne sais pas trop ce qui convient, peut-être j'ai le droit de discuter avec d'autres, j'ai peut-être le droit de le demander dans la prière, ce n'est pas forcément non plus interdit. Mais c'est déjà la question peut-être qui convient. Et donc je trouve que finalement, on le retrouve peut-être dans 1 Corinthiens, on l'avait vu 1 Corinthiens 8, vous êtes co-héritiers avec le Christ dans ce monde. De ce monde, on est héritier, on est co-héritier, donc on est dans la boutique, je veux dire dans notre atelier, et on se dit, bon, qu'est-ce qui convient? On ne le fait pas pour obéir à un patron, on le fait parce que, je veux dire, on veut que ça convienne, on veut que ça marche, quoi. Voilà, donc je trouve que c'est sympa proposition, finalement, c'est ça. Alors, c'est discuté parmi les exégètes, il y a des gens qui disent « le tout m'est permis », c'est en fait le slogan des Corinthiens qui vivent la vie joyeuse et débridée, libertine. Et donc Paul est un peu ironique, il dit « ah, vous croyez que tout est permis, mais en fait tout ne convient pas ». Non, moi je pense que c'est pour Paul, quand on le lit globalement, c'est quand même une pensée de Paul, cette liberté. On a effectivement tout est permis parce qu'il y a la grâce et parce qu'on est appelé finalement à être aussi libre de l'homme ancien. Et donc, effectivement, on soit dans ce pouvoir personnel qui est le nôtre, d'arriver à dominer un peu nos instincts de base. Et ça, pour lui, c'est donné, comme tu le disais tout à fait, par le... on l'avait vu ça dans... C'est quoi? C'est Romain 6, Romain 7, oui. Je ne sais plus. Avec marqué, mais en fait, moi, j'ai envie de faire le bien. Donc là, j'ai le discernement à peu près de savoir ce qui est bien. Le problème, c'est que je n'ai pas la force de le faire. En fait, je fais le mal que je n'avais pas envie de faire. Et il dit, mais qui va me délivrer de cette corps de mort, donc de cet instinct qui me pousse à mal faire, qui me prend par le bout du nez, par la colère, la paresse, la concupiscence, je ne sais pas quoi. Et il dit, grâce soit rendue au Christ. Donc effectivement, c'est une liberté par la grâce qui est donnée, tout est permis. Ensuite, eh bien, avec cette peut-être ouverture au Christ, et ça n'est que progressif, bien sûr, donc une genèse d'un homme capable d'accomplir un peu de bien, un homme, une femme, un humain capable de faire un peu de bien, et donc l'idée qu'on va pouvoir faire ce qui convient, voilà. On se pose la question, on va un peu prendre une décision et on va trouver. Et puis je ne me laisserai asservir par rien, je ne me laisserai dominer par aucune puissance. C'est intéressant parce qu'effectivement le bébé, l'enfant au début, il est dominé en fait, il est asservi à sa nature. On ne peut pas lui en vouloir pour autant. Et dans un sens, c'est le péché originel. Le péché originel, ce n'est pas une faute d'arrière-arrière-grand-parent, une petite faute de gourmandise, de rien du tout. Mais c'est plutôt le fait d'être asservi par sa nature. Et donc, je me laisserai asservir par rien. C'est peut-être le deuxième volet de cette question, deuxième question qu'il nous propose. Est-ce que ça va dans le sens de cette genèse de moi comme humain, finalement comme une véritable liberté croissante. Et ça me renvoie au Christ, quand même. Ça me renvoie à une genèse de mon être, peut-être prenant conscience que effectivement, je ne suis pas complètement maître de moi, et tant s'en faut, et que la simple sagesse, la simple méditation, ne suffit pas à me rendre forcément plus sage. Alors ensuite, c'est vrai que dans les comportements, il va l'expliquer un peu à peu après, je crois, le reste va un peu de ce chapitre 6, de ce passage, explique un peu ce qu'il entend par là, finalement. Comment est-ce que je peux être asservi par mes mauvais choix, par ma nature, peut-être, et puis ce qui peut convenir, finalement. La suite, ça sera plus dans ce qui peut convenir plus largement, dans peut-être la communauté, pour l'humanité, pour d'autres, ou avec Dieu. Mais là, je crois qu'on a déjà quelque chose qui est vraiment pas inintéressant, j'allais dire, comme méthode d'éthique chrétienne. Voilà.
Alors, ouais, mais il est quand même un peu coincé par... On va lire le texte, hein, rassurez-vous, on va lire le premier chapitre, mais je réponds quand même. Je pense qu'il est un peu coincé entre sa théologie, qui est une théologie de la libération. Il dit « la Torah, c'est fini, c'est l'Ancien Régime ». La Torah, elle vient de Dieu, elle est sainte, mais elle était pédagogue. Au fond, on n'a pas besoin d'elle. Bon, alors une fois qu'on est tout nu, et qu'on n'a plus la Torah, et que peut-être des tentations libertaires ou libertines se font jour dans les communautés, par orgueil aussi, c'est ça qu'il va pointer, avec l'idée qu'on est des forts, justement, qu'on est supérieur aux autres, et qu'on n'a plus besoin de toutes ces règles... qui ne sont là que pour les gens simples. Et il voit bien, effectivement, qu'il y a quand même un problème. Donc théologiquement, il a sa théologie de la liberté, mais pastoralement, il voit bien que cette communauté de Corinthe est en train de lui échapper et risque de pécher par orgueil en se flattant. Il y a eu d'autres hérésies comme ça dans l'histoire des églises, hein, où on pense qu'on peut tout faire parce que effectivement, on n'est plus sous la loi. C'est assez intéressant parce que ce que je disais sur la grâce, alors je pensais être très protestant en le disant, parce que souvent on a reproché à l'Église catholique romaine finalement de réintroduire un peu de Torah, un peu de loi, sans le dire, c'est-à-dire qu'en faisant dépendre le salut des mérites qu'on accumule, hein, et qu'on gagne son paradis. Et heureusement, vous êtes là pour nous dire, mais non, ça c'est épouvantable, c'est vrai, parce que c'est de la superstition, et puis c'est du chantage, et c'est pas comme ça que ça marche. Donc, effectivement, on est sauvé sans condition. Alors, tu dis, il n'y a pas besoin de... parce que ça ne crée pas une dette, finalement, chez l'homme, il n'y a pas besoin de répondre à la grâce.
Ben oui.
Quand même, parce que la grâce, c'est pas juste une grâce politico-juridique où on gracie le prisonnier, c'est une grâce par amour, quand même, il y a quand même un rapport avec amour, avec l'amour. C'est-à-dire que c'est parce que Dieu nous aime, et de toujours, et parce qu'il nous crée dans l'amour, et quand même, quand on est aimé par quelqu'un, on a envie d'être à la hauteur.
Ouais, mais envie, c'est pas une dette, c'est pas une obligation, c'est une envie.
Mais, oui, mais c'est presque un amour. Je ne vais pas dire qu'il y ait de l'ordre de la nécessité, parce que ce serait plus libre, évidemment. Mais à un moment, on a envie quand même, à cet amour premier de Dieu, d'être à la hauteur. Alors certes, on sait qu'on est sauvé, certes, on sait que tout est permis, mais enfin quand même, on ne fait pas des bêtises, et pas uniquement par peur de l'enfer, ou parce qu'on n'est pas assez affranchi ou émancipé. Mais parce que, voilà, on veut être digne de...
Non, mais justement, j'aime bien ton... parce qu'on a envie, c'est exactement ça, à mon avis, justement. C'est qu'on est encore dans la gratuité. Du coup, c'est une circulation de la grâce. C'est la grâce et puis une gratitude. Mais c'est pas, comme le disent certains parents, et à mon avis, ça fait des névroses terribles. Après, tout ce que j'ai fait pour lui, il pourrait machin. Ça, c'est quand même terrible, parce que du coup, on crée de la dette qui est, à mon avis, qui est culpabilisante et qui casse, justement, c'est... Ça donne envie, quelqu'un qui vous aime, qui vous fait confiance, qui vous donne la vie, je veux dire, ça donne envie. Et je crois qu'effectivement, c'est ça, c'est tout à fait ça le programme de l'Évangile.
Parce que à moi, un parent qui me dirait, après tout ce qu'on a fait pour toi, du coup, j'aurais l'impression de ne pas être aimé vraiment, gratuitement.
Exactement,
voilà.
Exactement.
Mais Dieu, je ne pense pas qu'il me dise ça.
Il ne dit pas ça.
Et du coup, comme il me voit comme un partenaire, avec une volonté... certes blessé peut-être, mais enfin quand même capable de répondre à l'amour, capable d'aimer. Moi, je pense quand même que... Alors, je ne suis pas en train de dire que la communauté chrétienne est plus à la hauteur, parce que l'expérience prouve que non, souvent. Mais le chrétien, à mon avis, n'en a jamais fini de répondre à cet amour premier.
Non, mais ça, je suis d'accord.
C'est pour ça qu'on va pas aller se saouler avec une bouteille de champagne après la réunion, par exemple, alors que notre concupiscence nous pousserait à...
Et pourquoi pas.
Et notre convoitise.
Et pourquoi
enfin,
pas.
Oui.
Et non, est-ce mais que c'est vrai.
Ouais. Oui, tout à fait. Les choses n'iraient pas pire, mais... C'est une...
Non, puis je crois qu'effectivement...
Il y a une éthique qui est liée à l'amour. Bon, on va lire le texte, peut-être.
On va lire le texte. Donc d'abord, 1 Corinthiens 6, si quelqu'un veut bien...
Mais juste pour aller dans ton sens, c'est très intéressant, parce que vous savez que j'ai la version en grec. Et dans la version en grec, il y a une traduction qui est celle, je ne sais plus...
Il y a la tome et la français courant.
Voilà. Et il y a la traduction dite... en français courant, qui est une traduction souvent plus simple, qui vise un public plus simple, qui n'a pas forcément une culture biblique, etc. Et alors c'est tout à fait étonnant, j'étais stupéfait, là où Paul dit « tout est permis, mais tout n'est pas utile ou profitable », voilà ce qu'ils disent. « Vous allez jusqu'à dire « tout est permis », Oui, cependant, tout ne vous est pas bon. Je pourrais dire tout m'est permis, mais jamais il n'est dit ça en grec.
Je rêve, c'est incroyable. C'est,
oui, oui, oui. Je pourrais dire, c'est-à-dire, oui, certes, je pourrais être tenté de me faire la réflexion et de me dire que tout est permis, mais bien sûr que non. Donc, on voit bien, c'est incroyable.
C'est incroyable.
C'est une traduction moralisante, parce qu'on a peur que entre les mains de gens un peu simples, ils se disent « Ah, tout est permis ». Alors on leur dit, vous allez jusqu'à dire tout m'est permis, et moi aussi je pourrais dire tout m'est permis, mais voilà. Alors,
j'avais jamais vu qu'ils osaient aller jusque-là dans cette.
Non, mais parce que souvent ils retranchent et là ils rajoutent.
Non, mais la Bible en français courant, à mon avis, cette traduction, c'est aujourd'hui la pire qui existe pratiquement. La français courant, c'est la pire de ce qui peut exister. Il y en a une qui est un peu meilleure qui est sortie comme ça pour les gens qui savent pas bien, qui connaissent pas plus de 300 mots de français, c'est la Bible ça s'appelle la parole de vie, je crois. C'est quand même mieux, c'est quand même plus proche du texte. Alors que là, oui, c'est romancé à ce niveau-là. C'est même plus l'évangile selon Paul, c'est l'évangile selon le traducteur qui raconte tout à fait ce qui lui passe par la tête.
Alors, lecture peut-être.
Lecture.
1 Corinthiens 6.
Ah, merci beaucoup.
Tout m'est permis, mais tout ne convient pas. Tout m'est permis, mais moi, je me laisserai asservir par bien. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira ceci et celui-là. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrais-je les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées? Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée fait avec elle un seul corps? Car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Tout autre péché commis par l'homme est extérieur à son corps. Mais le débauché pèche contre son propre corps. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Glorifiez donc Dieu par votre corps.
Alors d'abord, le premier conseil, je trouve que ce n'est pas inintéressant parce que si vous voulez, ça veut dire, voilà, on sait bien qu'on peut être... Ça peut être l'argent qui nous possède, en fait, nous... Ou ça peut être notre ventre, hein, dont, par exemple, le désir de bien manger. Voilà, c'est très connu, ça. C'est de la sagesse, je dirais, populaire, mais qui est tout à fait vraie. Savoir si on se nourrit pour vivre ou si on vit pour manger. Et donc, on peut être tout à fait... Il y a une aliénation de notre être profond, de notre personnalité, de notre dynamique de vie, dans notre propre corps, dans notre propre physique, dans nos propres instincts. Et ça, on le sait, c'est tout à fait vrai, donc c'est une bonne remarque et c'est un bon exemple, finalement. Ce tout est permis, n'empêche que si je suis complètement asservi, finalement, sous la puissance, sous la domination de mon ventre ou de mon corps, c'est pas génial. Alors, cela dit, la suite est quand même intéressante, parce qu'il dit, donc c'est toujours le verset 13... mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Donc vous voyez, c'est pas du tout pour dénigrer le corps, et faut devenir des purs êtres spirituels, dans les Alléluia, et puis d'être purs esprits, du tout. Le Seigneur est pour le corps, et donc le contraire, le corps est saint, c'est une bénédiction, et les plaisirs aussi du ventre sont pas du tout, le Seigneur, dans sa grande bonté, est pas du tout contre. Simplement, c'est une question de priorité, c'est une question de viser, si vous voulez. C'est une question de viser, de hiérarchie des priorités, à mon avis. Et effectivement, on va le voir, le corps est pour Christ, en fait. Le corps est pour le Seigneur. Donc il y a l'idée quand même d'une vocation, là. C'est-à-dire qu'il y a une vocation pour Christ. On le voit, hein, vous êtes les membres du corps, en fait. Les membres, où est-ce que c'est ? Votre corps est le temple au milieu, voilà.
Oui. 15.
Verset 15, les membres du Christ. Donc effectivement, on est les membres du Christ. Donc si on est complètement égocentrique, complètement pour soumis à la puissance de nos propres instincts, c'est comme si on arrache un membre au corps du Christ, en fait. Et donc, on loupe notre vocation. C'est pas tant que... si vous voulez, ça casse quelque chose. Donc, il y a la vocation comme membre. Donc, c'est expliqué ensuite... vos corps sont les membres du Christ. Mais ça casse aussi le Christ est pour le corps. Hein, c'est-à-dire, peut-être... il y a aussi ce que tu disais, c'est-à-dire que le Christ est au service de, n'est pas contre le corps, au contraire, il va faire que le corps va pouvoir s'épanouir dans des belles choses, dans de la vie, et ça donc si on se coupe du Christ, eh bien c'est tout juste dommage pour nous, parce que ça nous apportait vraiment quelque chose de merveilleux pour notre dynamique de vie très concrète en fait, et donc c'est quand même du gâchis. C'est plutôt, je pense, là-dedans que ça se... Là, il y a une chose qui touche à notre anthropologie, si vous voulez, qui nous fait réfléchir sur, dans notre être, le Christ n'est pas notre ennemi qui nous empêche de vivre, mais au contraire, il est pour nous faire vivre, pour nous ressusciter même. Hein, pour nous... Alors, ressusciter, c'est vrai que c'est un terme pieux, si vous voulez. Je regrette un peu ces traductions où on met ressuscité. C'est pour nous faire nous tenir debout, pour nous faire nous lever, finalement. Alors peut-être que Jérôme, qui est plus habile en grec, hein, il a marqué « Dieu qui a ressuscité le Seigneur, c'est Egeiro. Et nous ressuscitera aussi, c'est ex-Egeiro. Oui. C'est nous sortir de la merde, en fait. C'est nous sortir de... Vous voyez, c'est plus que nous faire tenir debout, c'est nous tirer de la boue, en fait. Nous... Et peut-être que là, ce que
faire
tu disais pour
du
le
lit
baptême...
Aussi, hein, c'est un peu ça.
Faire sortir du lit aussi.
Oui, oui, le matin, c'est ça, c'est le... nous réveiller, ex, to get up.
Et puis qu'on était peut-être enfermé dans quelque chose quand même. Il faut sortir de cet enfermement sur nous-mêmes peut-être, de notre idolâtrie de nous-mêmes. Sortir de ça et puis tenir debout. Il y a une sorte d'accouchement peut-être, hein, voyez, on verrait là-dedans. Nous ressuscitera aussi par sa puissance. Donc vous voyez, plutôt que de nous mettre à servir par rien, c'est à servir par le ventre, à servir par nos instincts. Donc cette puissance du Christ, c'est pas un nouvel esclavage, hein. Être sous l'esclavage de notre ventre, ou c'est l'esclavage du Christ, autant choisir le Christ, non. Parce que le ventre, il va effectivement nous asservir, c'est-à-dire nous réduire, nous posséder, nous mener par le bout du nez, alors qu'au contraire, la puissance du Christ, c'est une puissance de résurrection qui va nous faire sortir d'Égypte, sortir de cet esclavage, nous faire tenir debout, et puis... je veux dire, créer une vraie liberté, une liberté où on voit peut-être notre vocation dans le corps du Christ et dans le lien avec les autres, je ne sais pas moi.
Ce texte, à mon avis, est assez prodigieux parce que, d'une part, effectivement, il l'enlève à la loi. Donc tout est permis. Donc il y a une espèce d'amoindrissement d'un côté. Mais de l'autre, il rajoute dans la sanctification du corps. C'est-à-dire que ce qu'il enlève à la loi, il le rajoute au corps. Le corps n'est plus seulement un instrument ou n'est plus seulement la manière dont nous occupons une place au soleil ou bien notre manière d'entrer en relation avec les autres, par nos organes, etc. Le corps devient temple de l'esprit. Donc ça, c'est extraordinaire parce que toute la vie chrétienne est là. C'est-à-dire moins de loi, mais plus de mystère du corps. Alors, avec tout ce que ça peut entraîner aussi d'exagération dans la manière dont on a lu ces textes. Mais c'est quand même, pour moi, le chrétien, c'est celui qui se découvre à la fois libre, totalement, on peut tout faire, mais en même temps, qui a une conscience que son corps ne lui permet pas d'entrer en relation avec les autres n'importe comment. Donc, je sais pas, vous voyez ce que je voulais. Il désanctifie la Torah, mais il resanctifie à mort, si je puis dire, le corps. Voilà, le corps devient quelque chose. Alors, il a aussi affaire à une communauté dévergondée, donc il est obligé. S'il veut ne pas être en échec pastoral devant cette communauté, et qu'il n'y ait pas trop d'égoïsme et de libertinage, il faut qu'il trouve la présence de Dieu non plus dans des textes de loi ou dans la Torah, mais que la présence de Dieu soit dans le corps lui-même. Et deuxièmement, autre génie de ce passage, et alors ça c'est très contemporain, c'est la question de la sexualité. La sexualité, on le voit bien dans des courants aujourd'hui, est présentée comme un besoin, comme la faim, la soif. De même qu'on assouvit la faim en mangeant, eh bien, on assouvit sa sexualité en ayant des rapports qui ne prêtent à aucune conséquence. Et puis après, on n'a plus faim, et puis on a voilà. Et puis ensuite, la faim revient. Et puis, il y a une tendance dans toutes les cultures humaines à présenter l'exercice de la sexualité, l'exercice de la génitalité, comme étant un simple besoin qu'il suffit. De même que lorsqu'on a froid, on s'habille. Ben voilà, quand on a des appétits sexuels, il faut les satisfaire. Bon, alors, lui, ce qu'il dit, c'est une tentation de penser ça. Et c'est pour ça qu'il oppose finalement la faim et le désir sexuel. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments. Bon, voilà. Tout ça, de toute façon, mourra. Le corps, dont on serait tenté de se dire, mais le corps c'est comme le ventre, puisque le ventre fait partie du corps, le corps aussi mourra. Ben, pour Paul, le corps c'est pas ça. C'est pas seulement quelque chose qui est destiné à la mort. C'est pas la chair justement, la chair de péché, c'est le corps, c'est-à-dire notre unité. Et le corps n'est pas pour la débauche, c'est-à-dire pour l'exercice de la sexualité, en fait c'est ça. Hein. Chouraki dit le corps n'est pas pour la puterie. La putasserie, il dit la puterie. Voilà, au moins c'est clair. Donc, le ventre est fait pour... enfin, l'estomac, quoi, est fait pour satisfaire la faim, donc on sait comment ça marche, etc. Mais le corps n'est pas fait pour uniquement l'exercice de la sexualité, la sexualité entendue comme, évidemment, comme compulsive et désordonnée. Et ça, c'est très intéressant. Il le dit avec ses mots à lui, ça paraît ne pas être très très clair, mais il veut bien distinguer qu'il y a des besoins qui, effectivement, ne sont plus des besoins une fois qu'ils sont assouvis. Voilà, c'est des besoins de la nature. Et il y a d'autres types de besoins qui introduisent à autre chose. Et de fait... S'il fallait paraphraser, donc pour lui, la sexualité, c'est autre chose. Ça implique toute la personne, c'est un langage qui dit quelque chose de la relation à l'autre, de l'amour qu'on a, donc on peut faire mentir son corps en lui faisant dire trop de choses, alors que la personne n'est pas prête à dire, le corps va dire « je t'aime » quand la personne n'est pas capable d'avoir la maturité de dire « je t'aime ». Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est qu'il distingue quand même, parce qu'au fond, derrière tout ça, c'est des questions de sexualité qui sont dans le chapitre 7 que tu as enlevé sur la question du célibat. On voit bien qu'il tourne autour de ces questions-là, du désir, des appétits, etc. Et donc, il veut bien montrer que la sexualité n'est pas uniquement l'exercice de la génitalité qui en ferait une sorte de besoin parmi d'autres au fond et qui est la tendance de l'homme quand même, qui est la tendance de l'humain d'y voir simplement un besoin à satisfaire, etc. Alors évidemment il ne dit pas tout ce que je dis là, mais à mon avis c'est ça qu'il veut dire, c'est qu'il y a quelque chose de plus grave ou de plus beau ou de plus noble ou de plus total ou de plus définitif qui se joue lorsqu'on s'unit à quelqu'un d'autre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il rappelle les deux ne font qu'une chair, parce que c'est un langage qui engage la personne. C'est pas comme la faim, c'est pas comme simplement manger un rhum steak ou un confit de canard, c'est pas du même ordre. Et c'est pas du tout moralisateur ce que je dis, c'est qu'il distingue les désirs, les appétits.
En même temps, je suis d'accord. En même temps, je crois que ça va, c'est sur un niveau plus théologique. Alors ça peut se décliner comme cela pour des raisons d'éthique sexuelle, ce avec quoi je suis d'accord. Le fond de la question, c'est pas que le Seigneur soit très colère quand deux ados ne peuvent pas réfréner les afflux d'hormones exagérément présents dans leurs veines au printemps. Après, on fait ce qu'on peut, si vous voulez, Dieu n'est pas fâché. Mais cela dit, je crois que simplement, bon, je suis d'accord, c'est que c'est tout juste pas On peut dire, voilà, tout ne construit pas. Moi, je suis désolé d'aller coucher à gauche, à droite comme ça. On ne peut pas dire que ce soit très constructif. Au contraire, à mon avis, ça détruit quand même plutôt la personne. Donc, il n'y a rien de grave non plus. Tant qu'on se protège, qu'on ne tue pas des gens et qu'on ne se transforme pas des gens en objets, ce qui est encore vraiment le problème, particulièrement pour nous les mecs vis-à-vis des filles. Mais cela dit, bon, c'est une autre question. Parce que ça, je crois qu'on est assez grand, je crois quand même, pour savoir ce qui est constructif ou non. Et donc, finalement, la règle qu'il propose, je trouve que c'est en fait, sans être moralisateur, c'est tout à fait... Et je me laisserai asservir par rien, on sait que c'est, ça devient compulsif. Et que celui qui est dans une consommation de sexe effréné, ça devient de plus en plus compulsif. C'est comme les cacahuètes ou les chips, si vous voulez, plus on en mange et plus on a envie d'en manger à un certain moment. Donc c'est pas forcément...
C'est exactement l'exemple qu'il prend en comparant avec, ouais. avec le... Voilà.
Mais je crois que ça va
pour
plus loin.
Pour dire que ouais. c'est pas pareil.
Mais je crois que ça va bien plus loin, si vous voulez, parce que c'est un texte qui est quand même... Paul est dans le registre de la morale, il sait faire. On a une sacrée petite tirade de commandements moralisateurs qui ont souvent quand même pas mal vieilli et dont on voudrait qu'il y ait autre chose, parce que, bon, il encourage plutôt l'esclavage, il encourage... quand même, femmes, soyez soumises à vos maris en toute chose, même s'il rajoute que les maris pourraient aimer la femme comme le Christ aime l'Église, d'accord, ça n'empêche que femmes, soyez soumises à vos maris en toute chose, ça fait quand même des vrais morts. Ça encourage le viol domestique, ça encourage un asservissement qui est insupportable. Donc, quand il arrive dans la morale courante, l'application à la morale courante, l'apôtre Paul, à mon avis, c'est ce qui a le plus vieilli de tout le Nouveau Testament. Largement. Et on sent honte, on peut dire, bah écoutez, désolé, mais non. Ou pas toujours. Là, par contre, à mon avis, on est dans un registre quand même profondément théologique. On parle d'anthropologie, on parle de... Et la prostitution, c'est quand même connu dans tout l'Ancien Testament, c'est très fréquent. La prostituée, c'est Babylone, si vous voulez. La prostituée, c'est l'idolâtrie. Et en particulier, la prostituée, il n'y a pas marqué « allez pas bézouiller à gauche à droite ».
On parle fuyez de la débauche et la porneia. La porneia, c'est...
La porneia, oui.
Oui, c'est le consumérisme.
C'est mais là, c'est quand même beaucoup sur la... Voilà, c'est sur la prostituée. Et effectivement, alors on peut dire, voilà, c'est parce qu'il y avait peut-être de la prostitution sacrée à Corinthe, je ne sais pas quoi. Mais quand même, dans ce contexte, si vous voulez, de la Bible, et quand on parle de s'unir au Christ, finalement... Donc je crois que voilà, on est dans un registre quand même beaucoup plus théologique et beaucoup plus fondamental que simplement la petite morale avec laquelle je suis par ailleurs d'accord. Hein. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'en particulier l'idée de la prostitution, c'est que c'est quand même de la vénalité. C'est-à-dire que c'est des rapports qui sont tarifés. Et dans le fond de l'évangile où on en parlait en introduction, on a commencé comme ça, on parlait de la grâce, d'une économie de la grâce. Le tout est permis qui est fondé sur un amour qui est même unilatéral et qui, justement, n'est pas dans le mode de la rétribution ou n'est pas à acheter par de l'amour réciproque. Cet amour même unilatéral, c'est l'inverse même de la prostitution qui mime l'amour mais qui est sur un domaine du donnant-donnant, en fait. Et donc, c'est exactement l'inverse de l'économie de la grâce, en fait. Et en disant ça, ça mime l'amour, finalement, ça mime un acte pour lequel nous sommes faits, je veux dire, de vivre en couple, et puis ça mime cela, mais uniquement pour deux jouissances personnelles qui, finalement, bon, dans le meilleur des cas, le cas où la prostituée n'est pas une esclave, ce qui est encore autre chose, parce que Paul encourageait l'esclavage par ailleurs, les esclaves, obéissez bien à vos maîtres et les choses resteront bien en ordre. Il n'y a pas que Paul. Luther en a fait des pires. Mais cela dit, là, si vous voulez, c'est plutôt cette idée-là. Voilà, c'est qu'on doit être, on doit pas être dans ce rapport-là de chercher son propre plaisir en n'ayant rien à faire de celui de l'autre ou aucun but constructif, sans alliance, sans construction d'un couple, sans l'idée de fécondité finalement. Uniquement, finalement, une aliénation, un détournement de ce qu'il y a, pas de mauvais dans mon corps ou dans mon être, mais simplement un asservissement de mon être tout entier pour ce qui devrait être simplement un des éléments finalement de mon être est tourné vers le bien. Donc je crois que c'est surtout cette voilà, alors que celui qui s'unit au Seigneur, donc il y a l'idée au contraire d'une union au Seigneur, d'une union, alors l'union au Seigneur c'est pas non plus devenir un pur être spirituel abîmé dans la contemplation permanente. On voit bien, le corps est quand même, voilà, Dieu, le Seigneur est pour le corps, hein, et le corps est pour faire de bonnes choses peut-être, de choses constructives et utiles. Donc c'est pas ça finalement l'idée d'union avec d'union spirituelle, hein, avec le Seigneur. Oui, il y a ça, c'est ouverture à ce régime de la grâce, ouverture à ce qu'est le Christ, à ce qu'il apporte, ouverture à Dieu, d'accord, dans une alliance qui serait pas vénale, mais qui serait d'amour mutuel, puisqu'il y a son amour à lui, et nous on peut avoir un amour en retour, ça peut être sympa. Mais c'est aussi l'idée de s'unir au Seigneur donc dans un corps, c'est-à-dire en pensant aux autres, avec la compassion pour les autres, comme l'encourage dans le chapitre 12, il encouragea dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens. Tenu par des liens de compassion, de soutien mutuel, de collaboration de nos vocations ensemble. Et donc, de s'unir à ce corps. Et c'est vrai que si tout d'un coup, on est dans la poursuite de notre simple jouissance, on arrache, en fait. Hein, où est-ce que c'est marqué ? Prendrai-je les membres du Christ pour en faire ? C'est ce que je vais arracher, finalement, un membre du Christ pour entrer dans cette vénalité, finalement, dans cette seule poursuite de mon seul désir. C'est quand même fâcheux. Et là, c'est théologique, si vous voulez. C'est une notion de ce que c'est que l'humain. C'est le rapport à soi-même, finalement. Le rapport à l'humanité, voilà. Et le rapport à Dieu, qui est là, tissé, je crois, dans cette idée du refus de cette vénalité et de cette idolâtrie de son propre désir. Parce que finalement, le péché originel dont je parlais, c'est encore inventé par Saint Augustin, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, Saint Augustin, il est vraiment merveilleux, mais il a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, c'est quand même rigolo. Mais donc, on peut dire le péché originel, de dire, voilà, c'est un péché, Dieu en garderait une rancune infinie du péché d'Adam et Ève, et saurait souiller l'humanité. Ça n'a aucun sens, si vous voulez, évidemment. D'abord, péché de gourmandise, de croquer un fruit, c'est pas non plus, je veux dire, on a tous mis le doigt dans le pot de confiture quand on était petit. Et puis de se rebeller contre Dieu, ben c'est normal pour des enfants de se rebeller contre les parents en disant « je veux être grand tout seul ». Je veux dire, bon, il n'y a rien de fonçant pour Dieu, il en a vu d'autres, il en verra d'autres. Donc c'est pas du tout ça, mais plutôt c'est exactement ça. C'est-à-dire que Adam et Ève, ils sont devant l'arbre et ils se disent « mais en fait, c'est mon désir, l'accomplissement, l'assouvissement de mon seul désir, de ce qui me semble bon et agréable pour moi à goûter aujourd'hui, c'est ça qui sera mon Dieu et c'est ça qui va être le critère du bien et du mal ». C'est un vrai problème, si vous voulez, c'est que du coup, on est dans cette vénalité, on est dans cette idolâtrie de soi-même et on est complètement dominé par son seul désir de l'instant. Et ça, le problème, c'est que c'est... D'abord, ça nous arrache du corps du Christ, ça nous coupe des autres, on devient insupportable aux autres et les autres nous sont insupportables et Dieu nous est insupportable parce que qui est lui, Dieu, à se prendre pour Dieu alors que c'est moi qui suis Dieu et mon désir, c'est insupportable, c'est du blasphème. Donc, on est coupé de tout, on est arraché de tout, finalement, du Christ. On n'est plus, on s'arrache soi-même comme membre du Christ. Et donc, ça, c'est quand même un arrachement à la vie. Parce que le Seigneur, il n'y a pas marqué « si vous êtes bien sage, le Seigneur vous ressuscitera ». Ce n'est pas un subjonctif, c'est un futur. Comme le Seigneur a ressuscité, comme Dieu a ressuscité le Seigneur, le Christ, ben, il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Il y a cette promesse de résurrection qui est donnée. C'est... Du coup, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu ballot.
Oui, et puis il y a cette très belle phrase à la fin du chapitre, « Vous ne vous appartenez pas ». L'idée que finalement, notre... Parce que pour nous, la liberté, c'est de n'appartenir à personne, justement, de ne pas être aliéné. Mmh. Or, là, c'est une liberté qui s'accomplit dans une filiation, alors il ne parle pas de ces mots-là, c'est plutôt Saint Jean qui parlerait de filiation, mais effectivement c'est ça, je pense à la prière eucharistique qu'on utilise quelquefois dans l'Église catholique, c'est la quatrième, on l'utilise assez peu souvent, dimanche dernier on l'a employée, à un moment on dit « afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes mais à lui ». trouve que c'est assez beau, cette idée, et ça peut faire peur, l'idée qu'on trouve le sens de son destin, sa liberté, son accomplissement, son épanouissement, en appartenant à quelqu'un d'autre. Mais Paul dit à un autre endroit, d'ailleurs, que lorsqu'on quitte la Torah, l'esclavage de la Torah, on devient esclave de la justice. C'est-à-dire que de la justice de Dieu qui nous justifie, mais on est d'une certaine manière, si on veut vraiment être libre, on est condamné à aimer d'une certaine manière. Alors il ne faut pas dire les choses comme ça, mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas une liberté purement formelle, c'est une liberté qui a un contenu. Ce contenu, c'est l'amour, c'est précisément une liberté, comme tu disais tout à l'heure, pour le service des autres. C'est ce qu'on va voir dans. C'est ce que dit toute l'épître aux Corinthiens, d'ailleurs. En parlant des ministères au service de la communauté, on ne peut trouver le sens de sa liberté qu'en lui donnant un contenu. Et ce contenu, c'est d'exercer cette liberté pour sortir de soi-même.
Mais c'est, alors, c'est comme si je. Quand, la liberté, c'est la liberté de choisir. Et choisir, c'est. C'est renoncer à la liberté, si je puis dire, renoncer au choix. Quand on choisit d'aimer quelqu'un et d'épouser quelqu'un, c'est un acte de liberté, mais c'est un acte aussi où on ne s'appartient plus, puisqu'on s'engage. Et c'est comme ça qu'on l'utilise. Même l'argent qu'on a, tant qu'il est dans le compte en banque, je veux dire, il ne sert à rien. C'est quand on le dépense que c'est un acte de liberté de le dépenser. Et c'est pareil pour l'attachement. Il y a un moment où voilà, on choisit, on nous appartient, on s'appartient à soi-même puisqu'on est le patron, il vient de le dire en fait. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites de ça? Et donc il y a l'exercice d'un choix, qui est un choix libre de se dire je vais mettre ça en épousant le Christ, si vous voulez. Bon, ça fait un peu bonne sœur de dire ça, j'allais dire, mais oui, si vous voulez, mais oui, en fait. C'est-à-dire on place son attachement... On choisit librement de s'attacher à cette bonne dynamique. Et c'est pas. Et moi, d'expérience, j'allais dire, en se mariant avec quelqu'un, c'est très libérant parce qu'on n'a pas tous les matins à se gratter la tête en se disant est-ce que je l'aime encore? Est-ce que je ne vais pas aller courir après une autre? Il y a un moment où on se dit mais voilà, j'ai choisi. Et donc, c'est un acte de liberté qui est extraordinairement libérant. On se dit ben voilà, j'ai choisi, je vivis ce chemin-là et donc je peux y aller comme ça. Et ça, je trouve que oui, tu as bien fait de souligner ça, c'est très touchant, je trouve, cet appel à s'engager.
Alors, on va lire le chapitre 8 assez rapidement. Oui. Tu as supprimé le 7, et je voulais juste dire quelque chose dans le 7, parce que j'avais oublié que c'était là. Le pauvre Paul, on l'accable souvent en rappelant que « femmes, soyez soumises, etc. à votre mari ». Alors, par ailleurs, il s'en sort en disant qu'évidemment, en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni esclave, ni grec, ni juif, ni esclave, ni homme libre. Mais après, il y a la vraie vie, bon, voilà, qui n'est pas la vraie, mais enfin, il faut quand même durer jusqu'au retour du Christ. Et donc là, on se soumet à l'ordre des choses. Alors, c'est quand même étonnant parce que dans le chapitre 7, il dit « Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari ». De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ça, c'est quand même extraordinaire. Hein? Alors, dans la version plus simple, en dessous...
Non, je trouve ça horrible, moi.
Ben, le mari doit remplir son... Non, c'est pas ça.
Non, c'est horrible, ça encourage au viol. Hein?
Oui, non, mais attends. Dans la version en français courant... La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps, son corps est à sa femme. Non, mais cette parité exacte et absolue entre l'homme et la femme, c'est la seule occurrence. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je donne des billes aux personnes qui nous écoutent pour contredire les gens qui leur diront « Saint Paul, c'est abominable, c'est toujours quand même l'éloge du patriarcat, du machisme, etc. Ben, » il faut citer ça.
Mais en même temps, moi je dirais non, l'autre n'a pas envie, désolé, pas ce soir, et ben ça ne sera pas ce soir parce que l'autre ne veut pas.
Oui, mais
c'est pas... Oui, mais ça, je veux dire, il faut voir les dégâts que ça commet.
Oui.
Les traumatismes profonds, je veux dire, ça a dû être sponsorisé par l'Union des psychiatres.
Absolument. Mais si ce n'est qu'il autorise la femme à violer le mari, c'est quand même ça qui est intéressant.
Ben, c'est pas mieux.
Oui, mais c'est plus...
C'est pas.
Là, je trouve ça plus rock'n'roll quand même. C'est un peu plus, plus inattendu. Voilà. Enfin, c'est inattendu dans un texte du 1er siècle qui est marqué quand même par le règne du le père de famille dans le monde méditerranéen à l'époque à droit de vie et de mort sur ses enfants jusqu'à la fin de leur jour.
Non, là je suis d'accord, c'est qu'il faut quand même c'est pour ça qu'on est fier. D'ailleurs, c'est inventé par un oratorien en face. Plus ou moins inventé parce qu'il a appris un peu avec c'était déjà un peu dans l'air du temps, mais quand même c'est lui en faisant l'histoire critique du Vieux et du Nouveau Testament. Simon, voilà, qui était un oratorien en face, qui a inventé ça, il faut remettre dans le contexte de l'époque quand même pour voir ce que ça dit, quoi. Et donc il faut se replacer dans le contexte de l'époque, effectivement, la femme était un objet sexuel pour l'homme, et il dit, écoutez, d'accord pour ça, parce que ça existe, mais autant pour les mecs. Donc il faut voir le déplacement qui est proposé. Donc on était à l'époque au point A, il propose de passer au point A'. Et il faut voir le déplacement, la translation que propose l'apôtre Paul. Bon, nous, on n'est pas en A, on est en B. Et donc, si on allait en A' depuis notre B, ce serait pire. Et donc, ça nous semble, effectivement, c'est épouvantable d'en revenir là où on encourage à se laisser violer par son conjoint. C'est épouvantable, certes. Mais ce n'est pas ça, parce que nous, on est en B, donc il faut qu'on aille en B'. C'est-à-dire qu'il faut que, avec les progrès que nous avons pu vivre, d'ailleurs en grande partie à cause de l'Évangile, de savoir de respect de l'autre, de respect de l'autre comme un autre soi-même. Et donc il est hors de question de violer un autre, de lui imposer notre propre désir. C'est hors de question par un simple exercice d'intuition, de déduction à partir de ce que dit et ce que vit le Christ. Donc à partir du moment où on va plus loin que l'apôtre Paul, ayant médité quand même pendant ne serait-ce que 2000 ans de plus, donc ce n'est pas pour dénigrer l'apôtre Paul, c'est un géant, mais nous montons sur les épaules du géant. Donc on est un peu plus haut que ses épaules, pas simplement à cause de notre petite force, mais parce qu'on est monté sur les épaules de Paul, de saint Augustin, de Thomas d'Aquin et de tant d'autres. Mais, donc voilà, on sait aujourd'hui qu'on n'impose pas son désir à l'autre au nom de l'Évangile, bien sûr. Et donc, du coup, voilà. Mais on peut voir quand même l'effort de Paul, comme tu le dis, comme dit Jérôme, pour un peu plus de parité, un peu plus d'une humanité qu'est homme et femme. Et j'allais dire pareil pour femmes, soyez soumises au mari. Bon, c'était un truc patriarcal, c'était l'habitude. Encore maintenant, les mariées sont souvent en blanc. Pourquoi ? C'est parce que ça va avec l'électroménager, si vous voulez. Et elles sont déjà bien équipées pour aller faire la vaisselle. Elles sont déjà la tenue pour, vous voyez. Ça va avec. Bon, les mecs sont en noir pour aller au charbon. Donc, vous voyez, bon, c'est très patriarcal. C'était comme ça. Alors, Paul prend ça comme ça, il dit c'est comme ça. Oui, mais attention, les mecs. D'accord. Hein. Les femmes sont là pour faire la vaisselle, pour vous servir, pour fermer leur gueule. Mais en attendant, vous vous prenez pour Jésus-Christ. C'est très bien, mais cela dit, faites-le justement comme le Christ, en donnant votre vie pour les autres, votre vie pour votre femme, votre vie pour votre famille. Ah, ben vous commencez déjà à moins rigoler, les petits machos, ben oui. Donc, vous voyez, il part d'un point A, très patriarcal, machin, et il essaye d'évangéliser quand même pour appeler les dominants en particulier, donc à un autre comportement. Bon, nous, on sait maintenant que le rôle dans la famille, c'est pas ce rôle-là qu'on veut établir dans le couple ou dans la famille. Donc, on n'est plus en A, on est en B. On en vient le rapport plus symétrique dans la famille. Je crois que c'est quand même un grand progrès. Ben, à ce moment-là, il faut que, de toute façon, nous soyons comme le Christ chaque fois que nous avons peu ou prou un rôle de dominant dans le couple. Et si ça peut être équilibré, c'est pas mal. Mais quand nous imposons quelque chose à l'autre, que ce soit vraiment pas pour moi-même, pour assouvir mon désir, comme on peut le voir ici dans Paul, mais que ce soit vraiment au service de la vie et où je me donne et que l'amour soit l'amour agapé, l'amour où on donne sa vie pour l'autre, pour faire vivre l'autre, pour faire vivre, et pas pour l'amour éros où je profite moi-même. Donc je crois qu'il faut voir plus le mouvement qui est proposé par Paul que de s'arrêter à sa simple morale, ce qui nous ferait subir un joli retour en arrière de 2000 ans de progrès, à mon avis, dans la conscience et de progrès dû justement à l'Esprit Saint, dû à la méditation de l'Évangile et dû à des efforts important, je crois, et de Dieu et de tous les croyants pour essayer progressivement d'avoir une genèse de l'humanité dans une humanité un peu plus humaine.
Alors, il faut peut-être faire un choix là, je ne sais pas, parce que il y a la question dans le chapitre 8 des viandes sacrifiées aux idoles. Alors pour nous c'est un peu folklorique, c'est un peu exotique. En même temps c'est un point fondamental, c'est la distinction qui se faisait dans les communautés entre les forts et les faibles. Les forts, c'est ceux qui sont éclairés, qui ont compris que tout est permis, voilà. Et les faibles, c'est ceux qui sont encore attachés quand même à des manifestations de piété qui viennent voilà, des usages des anciens. On est confronté sans cesse à ce genre de questions, même si nous, on ne mange pas de viande sacrifiée aux idoles. Par exemple, je viens d'une famille où il est impensable de manger de la viande les vendredis de carême. Il va de soi que manger de la viande un vendredi de carême, si par ailleurs on essaie de vivre spirituellement le carême et de dans le secret de son cœur, comme y invite Jésus, si on cherche vraiment la conversion, ça n'est pas grave, ça n'est pas un péché en soi. Dans ma famille, c'était présenté comme une forme de péché. Parce que, justement, c'est un choix individuel qui contredit, c'est assez paulinien d'ailleurs, l'idée que c'est le corps tout entier qui est engagé, et donc voilà, il y a des usages qui sont sérieux. Alors, que fait Paul dans ce genre de situation ? Ben, il va dans sa famille, et il ne mange pas de viande le vendredi de carême, ce que je fais d'ailleurs, et par ailleurs, si je suis invité... chez des personnes qui m'offrent de la viande un vendredi de carême, ben je mange de la viande, évidemment. Bon, parce que je ne vais pas dire horreur, parce que je contredirais l'esprit qui veut que l'on ne fasse pas montre de... Voilà. Alors, c'est compliqué, ça, parce que, évidemment, tout de suite, on va être accusé de deux poids, deux mesures, de jouer un double jeu. C'est d'ailleurs une vraie controverse qui apparaît dans les Actes des Apôtres, l'incident d'Antioche, qui va être l'occasion du Concile de Jérusalem, où on va trancher en disant, bah, écoutez, on renonce à la circoncision pour les païens, mais quand même, les viandes sacrifiées aux idoles, c'est pas bien. On appelle ça les idolotites. C'était des viandes que quelquefois, on consommait sans le savoir. Parce que ces viandes, je ne sais pas si vous voyez un peu à quoi ça correspondait, les temples païens... Mais le temple juif aussi était des abattoirs, en fait. Donc, on abattait de la viande, on donnait une part au sacrificateur, au prêtre, une autre part au donateur, celui qui faisait l'offrande. Il restait beaucoup de choses. Donc, tout ça était vendu sur le marché. Il y avait des étalages, des étals autour des temples. Et effectivement, quand on achetait, on ne savait pas trop, d'ailleurs, si ça avait été sacrifié aux idoles ou pas. Alors, il y avait des gens par scrupule qui continuaient à se poser ce genre de questions. Un peu comme aujourd'hui avec l'abattage halal, on ne sait pas forcément dans quelles conditions les viandes ont été saignées ou abattues. On ne peut pas toujours savoir. Voilà. Donc c'était un peu ça. Et ça paraît évidemment très lié à un contexte historique, mais pour moi c'est intéressant parce que vous allez voir, évidemment, enfin vous connaissez peut-être déjà, quelle solution il préconise. Alors, est-ce qu'on lit le 8 ?
On lit le 8 quand même, parce que,
oui, parce que...
c'est intéressant comme démarche pour dire, voilà, tenir compte de l'autre, quand même.
Oui.
C'est intéressant,
oui.
Parce que pour l'instant, peut-être ça a été trop personnel, trop individuel, vous voyez, tout est permis, tout construit pas, on se dit, machin. Mais là, on va voir, il ne faut pas simplement s'interroger sur ce qui me semble constructif et rester droit dans ses bottes, mais se dire quel effet ça va produire sur l'autre. Et par exemple, moi j'y pensais en lisant ça, à cette histoire des caricatures, effectivement, bon, on trouve ça très drôle de faire des caricatures, de se moquer de la foi de l'autre ou de notre foi à nous, à la limite, pourquoi pas. On peut trouver ça très drôle. Tant qu'on trouve ça très drôle, c'est tout à fait bien, mais on peut se dire, voilà, si l'autre est mortellement blessé par mon humour, est-ce que c'est une bonne idée, quoi ? C'est quand même, je trouve que, vous voyez, ça fait
tout
quand même
fait,
de l'usage, vous comprenez, on ne parle pas des sacrifices, mais là, par exemple, est-ce que ça amuse de montrer... de se moquer de Sœur Emmanuelle dans... Moi, ça m'amuse moyennement, si vous voulez. C'est pas que ça m'offense mortellement, mais je trouve ça tout juste dégradant pour celui qui fait ce dessin et qui se moque d'une bonne femme que... Bon, d'abord, je l'ai rencontrée plusieurs fois et j'adorais cette dame, mais à part cette grande dame, mais à part ça, je trouve ça tout juste toxique, si vous voulez. Donc, je crois que c'est la question. Mais pourtant, je ne crois pas qu'ils aient péché en le faisant, si ce n'est que bon, vous voyez, mais...
Ça va au-delà, même.
C'est se poser la question de l'effet que ça produit chez l'autre. Voyez. Et donc là, c'est ce que nous propose l'apôtre Paul, et ce n'est pas inintéressant. C'est-à-dire que ça casse le dogmatisme de se dire, voilà, je vais voir, moi, selon mon point de vue, est-ce que c'est constructif ou pas constructif. Et Paul dit, ben, finalement, c'est une question qui n'est pas inintéressante, c'est ce qu'on vient de voir, mais peut-être, pour aller plus loin, je dois me dire, est-ce que, du point de vue de l'autre, quel effet ça va produire chez l'autre. Et la question, elle se déplaçait la question aussi dans l'effet chez les autres. Ça, je trouve que c'est quand même un grand, grand pas, finalement. Et c'est un beau commentaire de aimer son prochain comme soi-même. Finalement, le 1 Corinthiens 6, c'est penser à s'aimer soi-même, dans un certain sens, dans cette construction, cette non-aliénation de soi-même par rapport à son propre corps, non-aliénation par rapport à Dieu qui nous aime, non-aliénation pour la place dans la société, d'être quelqu'un qui apporte du positif. Là, il y a un aimer son prochain en se mettant à la place du prochain et en se disant quel effet va produire mes actes, ce que je porte comme témoignage. Comment est-ce que ça va être lu par l'autre ? Que mes actes, que je le veuille ou je ne veuille pas, vont être interprétés, compris par l'autre, comme signifiant quelque chose. Peut-être, c'est peut-être pas ce que je voulais dire, mais c'est ce que l'autre peut comprendre. Et ça, je trouve que c'est vraiment, dans l'amour du prochain, c'est tout juste très bon. Donc, je propose qu'on le lise rapidement, même si il n'y a peut-être pas beaucoup plus à dire que ça, là-dessus, je ne sais pas.
Oui, c'est juste pour... avoir en tête le...
Si, il y a un passage quand même qui est très intéressant au début. Par qui ? Le Seigneur par qui tout existe, c'est oui. Quand même très, très... Hein ?
Anne ? Oui.
Donc, peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Nous savons qu'il n'y a aucune idole dans le monde et qu'il n'y a d'autre Dieu que le Dieu unique. Car bien qu'il y ait de prétendus dieux au ciel ou sur la terre, et il y a de fait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Mais tous n'ont pas la connaissance. Quelques-uns, marqués par leur fréquentation, encore récente des idoles, mangent de la viande des sacrifices, comme si elle était réellement offerte aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous ne prendrons pas de retard. Si nous en mangeons, nous ne serons pas plus avancés. Mais prenez garde que cette liberté même, qui est la vôtre, ne devienne une occasion de chute pour les faibles. Car si l'on te voit, toi qui as la connaissance, attablé dans un temple d'idoles, ce spectacle édifiant ne poussera-t-il pas celui dont la conscience est faible à manger des viandes sacrifiées ? Et grâce à ta connaissance, le faible périt, ce frère pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. Voilà pourquoi, si un aliment doit faire tomber mon frère, je renoncerai à tout jamais à manger de la viande plutôt que de faire tomber mon frère.
Quoi ? C'est touchant,
oui.
Moi, je trouve. Oui.
C'est délicat.
C'est intéressant, non ?
D'autant plus qu'on est toujours le fort d'un autre et le faible d'un autre. Vous savez, c'est comme le snobisme, on est toujours le snob de quelqu'un. Bon. C'est parce qu'il ne faudrait pas croire que la frontière soit si simple. Parce qu'on a tous des zones où on a besoin aussi de cette empathie que tu évoquais. Alors, ce n'est pas toujours pour des questions proprement religieuses, mais finalement, ce qui va... scandaliser, puisque c'est le mot, hein, ce qui va être la pierre d'achoppement, hein, le scandalon, ce qui fait trébucher, ça peut être plein de choses. C'est pas seulement de commettre un sacrilège. Ça peut être des tas de choses de la vie quotidienne où on peut blesser quelqu'un sans le savoir. Donc là, il y a quelque chose qui va au-delà, évidemment, de l'idolâtrie historique. Alors, c'est intéressant parce qu'il pense, évidemment, aux païens. Parce qu'on pourrait croire qu'il s'adresse à des juifs et que ces juifs, évidemment, sont gênés de manger de la viande qui ont été sacrifiée aux idoles. Non, ils pensent à des païens convertis, qui, eux, justement, viennent de laisser tomber quelque chose, et c'est pas simple de leur dire, vous savez, de toute façon, ça ne vaut rien, puisque de toute façon, les idoles, ça recouvre rien, donc... parce que c'est ça qui est en jeu derrière. C'est pas tellement... ils ne s'adressent pas à des juifs qui seraient forcés de manger des viandes sacrifiées à Neptune. C'est plutôt des catéchumènes qui viennent de quitter un certain mode de vie, et puis on leur dit tout d'un coup, mais vous savez... Et c'est une question que moi je me pose souvent avec les catéchumènes. Parce que forcément, ils vont avoir tendance à... Je ne dis pas à dramatiser, mais à vivre de manière intense l'avant et l'après. Et l'après, bah, ils se retrouvent avec des baptisés de longue date qui, eux, leur disent « Oh oui, mais bon, la messe du dimanche, oui, bah, on va à Noël et à Pâques. » Et puis... Bon, vous voyez ce que je veux dire ? C'est que tout d'un coup, voilà, il faut aussi respecter le temps propre de la personne. Cette temporalité qui fait qu'ils se sont appropriés justement cette vie en Christ, donc l'homme nouveau. Donc ils ont quand même tendance, comme saint Paul, à faire leur chemin de Damas et à dire que quand même il y avait l'ancien et puis il y a cet homme qui a été aimé gratuitement et ils ont besoin de digérer tout ça. Et puis tout d'un coup, on leur dit « Oh !» Bon, ce que dit le pape, ou ce que disent... Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il faut quand même... Alors, évidemment, c'est une question de discernement chrétien, de discernement pastoral. J'évoquais ça avec Serge tout à l'heure. J'étais à un concert hier. C'était le Requiem de Mozart dans une église de Paris. Et le curé n'avait pas vu qu'en plus du Requiem, il y avait les cantates maçonniques de Mozart. Bon. Alors... il s'est cru obligé de faire un petit discours pour dire qu'il n'avait pas vu le programme et que normalement il y a une incompatibilité entre l'appartenance à l'église catholique et à l'appartenance et aux loges maçonniques. Moyennant quoi, il n'a fait qu'attiser le problème, ça a été une catastrophe, il s'est fait huer en plus, j'étais mortifié pour lui, parce qu'effectivement là je pense qu'il y a un discernement qui... Voilà, et que la question morale n'est plus vue par un Français d'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on pense hein, de la vie maçonnique, moi c'est pas mon truc, mais on voyait bien que pour les Français d'aujourd'hui qui étaient là, pour les centaines de personnes qui étaient là, c'était plus un enjeu moral grave, et que le discours ne collait pas complètement, et que du coup il a été mal reçu à cause de ça.
Comme de l'intolérance, tout simplement.
Voilà, tout simplement.
Donc, du coup, c'est un contre-témoignage au lieu d'être...
Tout à fait, parce que on ne voyait pas, il n'y avait pas justement le faible pour qui ça aurait été très choquant. Peut-être qu'il y avait deux ou trois personnes pour qui c'était très choquant qu'on joue les cantates maçonniques de Mozart dans l'église. Et à vrai dire, voilà, c'est plus senti comme satanique ou comme... voilà. Donc, je pense que là, c'est... Parce que le risque, c'est toujours d'en faire trop pour protéger des faibles qui n'existent plus, au fond. Parce que l'histoire a changé et que ces faibles-là, ce qui les choque, c'est autre chose que les cantates de Mozart, qui sont très belles, en plus. Dieu merci.
Donc un seul Dieu, c'est quand même... Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est utile de le revendiquer, comme le fait Paul. Il n'y a qu'un seul Dieu, donc en fait, ça, je crois que c'est quand même utile de le rappeler quand même. Il y a un seul Dieu, et il s'appelle l'unique. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Et donc là, il distingue bien donc, Dieu qui est l'unique, la source, et puis le Christ qui est finalement le médiateur, l'intermédiaire, finalement. Hein, donc au verset 6... Il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons. Et donc ça, aller vers Dieu, c'est évidemment, c'est important ici. Ça nous rapprochera de Dieu, ça ne nous rapprochera pas de Dieu. Donc il y a cette idée de cheminement vers Dieu qui est en cours et qui est comme une marche. Et ça, on le retrouve souvent quand même. C'est une dimension aussi Donc on est sous la grâce. Donc tout est déjà donné, mais n'empêche qu'il y a encore... cette marche, ce cheminement, et dans lequel, voilà, vous avez été appelé à la liberté aussi, Donc il y a ce cheminement auquel nous sommes appelés, et c'est un travail volontaire, je crois, délibéré, de piété, d'attention, et d'action aussi, je pense, auquel il nous invite, en Christ. Alors peut-être que le Christ qui est donc le Jésus-Christ par qui tout existe, dans le grec il n'y a pas existe, mais par qui tout est peut-être, et par qui nous sommes, c'est pas inintéressant parce que c'est il nous sort de quelque chose finalement. Hein, c'est comme une libération d'Égypte. Et là, donc effectivement, c'est ce qui est symbolisé, j'allais dire, c'est ce qui est dit avec le baptême. Hein, cet appel à sortir. D'ailleurs, le mot même Église, ecclésia, c'est celui qui est appelé à sortir en fait. Ec, sortir, et kaleo, appeler. Donc on est appelé à sortir. Le fond de l'Église, c'est ça, c'est entendre cette voix qui nous dit qu'on est digne, comme ici, de pouvoir sortir de ce que nous étions hier, pour entrer dans cette dynamique de cheminement.
Et donc finalement que l'Église... Je te coupe parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, ça.
Que l'Église, parce que nous, on confond Église-communauté. Ouais. Non, la communauté, c'est un bénéfice collatéral.
Donc les périphéries sont précisément, nous sommes appelés à, de même que Metz veut dire envoi,
oui,
et non pas repli,
c'est envoi en mission.
L'Ecclésia, effectivement, c'est l'invitation à sortir, oui, c'est l'appel en dehors, littéralement.
C'est l'appel en dehors, l'appel à sortir de là où on est, sortir d'Égypte, sortir du péché, sortir de nous-mêmes. Et donc, du coup, on se retrouve dans le corps du Christ, parce qu'on est tous appelés par un seul Christ, et on est dans cette union. Mais c'est un bénéfice collatéral, voilà. Donc, ça me rapprochera de Dieu, ça ne me rapprochera pas. Et donc, bon, on peut choisir des exercices spirituels, parce qu'à mon avis, il y a dans cet appel un appel à prendre ce cheminement qu'est le Christ, en fait. Prendre ce cheminement d'une manière... Il y a un effort de cheminement, je pense, un effort de concentration, un effort de consécration aussi dans cette marche. Mais oui.
Voilà. Ce qu'on va faire, c'est pour terminer, à mon avis, on peut le lire parce que c'est tellement beau.
On peut lire,
puis il y a le fameux malheur à moi si j'annonçais pas l'évangile, etc. C'est vraiment du grand Paul. Alors on lit ça comme ça.
9 et 10.
Et puis on arrive à la fin, vous allez voir, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est presque le triomphe de Hillel sur Shammai dans le vieux débat rabbinique. Voilà, c'est la liturgie du quotidien. Alors, je ne sais pas qui veut bien lire le 9, puis éventuellement le 10. Serge, tu aimes bien lire ou... Mais il y a peut-être des gens qui...
Alors, car annoncer l'évangile n'est pas un motif de fierté pour moi. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le faisais de moi-même, j'aurais droit à un salaire. Mais si j'y suis contraint, c'est une charge qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user des droits que cet évangile me confère. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous pour gagner le plus grand nombre. J'ai été avec les Juifs comme un Juif pour gagner les Juifs, avec ceux qui sont assujettis à la loi comme si je l'étais, alors que moi-même je ne le suis pas. Pour gagner ceux qui sont assujettis à la loi avec ceux qui sont sans loi, comme si j'étais sans loi, alors que je ne suis pas sans loi de Dieu, puisque Christ est ma loi. Pour gagner ceux qui sont sans loi, j'ai partagé la faiblesse des faibles. Pour gagner les faibles, je me suis fait tout à tous pour en sauver sûrement quelques-uns, et tout cela je le fais à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part.
Bon, c'est extraordinaire. Hein. Alors, on voit bien sûr le drame existentiel de cet homme qui a choisi librement quelque chose de très inconfortable au nom précisément de la vérité et au nom de cette expérience de rencontre avec le Christ. Donc, juif avec les juifs, grec avec les grecs, ça ne veut pas dire qu'il est caméléon, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il est...
marketing.
Oui, il n'est pas marketing. Il ne cherche pas le cœur de cible. il respecte profondément. C'est par empathie et par... Et c'est pas seulement, vous savez, comme dans le Misanthrope, l'ami du genre humain n'est pas du tout mon fait. C'est ce que dit Alceste à Philinte au début de la pièce, parce que vous avez les deux amis, il y a le misanthrope implacable, et puis il y a l'autre qui est un peu plus complaisant, un peu plus enclin au compromis, mondain, etc. Ici, c'est plus que ça. C'est vraiment une compréhension profonde de l'autre qui fait que, momentanément, il peut adopter ce qui, pour l'autre, est le plus sacré. Donc, il n'est plus sous la Torah, mais il peut comprendre ceux qui le sont encore. Et puis, ceux qui ne le sont pas, ben, il va les comprendre aussi. Alors que lui, il a ce qu'il appelle la Torah du Christ, la loi du Christ. Et tout cela au nom de l'Évangile. Il faut savoir que l'Évangile, à l'époque, ce n'est pas encore les livres qui seront écrits 20 ans après. Donc, c'est la bonne nouvelle. C'est l'idée d'une... Il y a eu une rupture dans l'histoire, il y a quelque chose de neuf dans l'histoire, c'est ça, c'est cette bonne nouvelle du salut qui n'est absolument pas mérité. Et alors là, il revient à tout est permis, mais tout ne convient pas.
Mais ce qui est assez beau, je trouve, c'est que quel est le seul salaire ?
Oui.
C'est d'annoncer l'Évangile, en fait.
Oui.
Donc c'est le bonheur, simplement, de rendre heureux, d'annoncer une bonne nouvelle aux gens, et puis ce que je gagne, c'est des personnes qui vont en vivre, en fait. Donc c'est le... Vous voyez, c'est, je trouve que c'est beau comme salaire, finalement. Et finalement, et tout cela au verset 23, ça pose la question de la motivation aussi, de l'action bonne, j'allais dire. Tout cela, je le fais à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Je trouve que ce n'est pas, c'est pas très bien traduit parce que c'est l'idée de sun koinonia, c'est-à-dire d'être, de devenir finalement dans une sorte de communauté ensemble.
C'est plus que bénéficiaire, oui, c'est de... C'est d'entrer dans...
Une sun koinonia, c'est ensemble entrer dans une communauté, communion, finalement, dans une communion, quoi. Ouais. Et donc, je trouve que c'est assez beau, c'est l'idée vraiment de pouvoir avoir une humanité réconciliée, j'allais dire, bon, entre les gens, qu'il y a un peu de paix, bien sûr, un peu de... Donc, cette complémentarité assumée entre des membres, dans la différence des membres, dans la différence de fonctionnement, mais aussi d'une communauté plus vivante que ça, avec le Christ, quoi, qui est là et qui est la vie de cette communauté. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une vision d'une humanité spirituelle, d'une humanité vivante. Et finalement, son récompense et son objectif, c'est ça. Je trouve que c'est assez beau, parce qu'en en même temps, il y voit un bénéfice pour lui-même. Il y a une vraie joie de recevoir quelque chose et de se réjouir de ça. Mais en même temps, ce n'est pas une joie de faire son salut ou de... vous voyez, de... Non, c'est...
Ah oui, oui.
Mais je comprends, d'ailleurs, c'est vrai, si vous voulez. Par exemple, quand on a pu aider quelqu'un, qu'on a pu donner un coup de main, qu'on voit que la personne, par exemple, elle s'en est sortie, qu'elle va mieux, machin, on est content, quoi. C'est gratifiant, on est content de soi, d'accord, et on a le droit de l'être. Mais en même temps, on est content parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la vie qui tourne, et ça, c'est pas mal.
Et c'est dans l'Épître aux Corinthiens aussi, d'ailleurs, qu'il parle de son métier, justement, pour... parce que ça,
pour le faire gratuitement, oui.
Pour le, tout à fait. Alors, ensuite...
On peut lire le 10, ou...
Le 10, je lis, si tu veux.
Oui, oui.
Tout est permis, mais tout ne convient pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que nul ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Tout ce qu'on vend au marché, mangez-le sans poser de questions par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle contient sont au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, donc invité à manger, mangez de tout ce qui vous est offert, sans poser de questions, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, c'est de la viande sacrifiée, n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a averti, et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de la sienne. Car pourquoi ma liberté serait-elle jugée par une autre conscience ? Si je prends de la nourriture en rendant grâce, pourquoi serais-je blâmé pour ce dont je rends grâce ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pour personne une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les Grecs, ni pour l'Église de Dieu. C'est ainsi que moi-même, je m'efforce de plaire à tous en toutes choses, en ne cherchant pas mon avantage personnel, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Tout n'édifie pas. Alors le mot édifiant, qui a pris d'ailleurs des connotations un peu mièvres, un peu édifiantes justement, ça vient de là. Alors, qu'est-ce qui est édifiant dans un comportement, justement? C'est un peu comme le mot charité, ça a pris évidemment des valeurs de sens un peu ostentatoires, un peu donneuses de leçons, un peu tartuffes. Mais de fait, un comportement édifiant, c'est un comportement qui n'est pas donneur de leçons. Au contraire, c'est un comportement qui fait grandir, qui permet au royaume d'advenir. Ce qui veut dire que le royaume ne vient pas comme ça uniquement sans nous. Nous contribuons à l'édification de ce royaume. Il n'utilise pas le langage du royaume, d'ailleurs, c'est plutôt dans les évangiles, mais voilà,
de la maison, là.
Oui, puis de l'église, parce que l'Ecclésia, il a quand même une vision très, très haute dans l'Épître aux Corinthiens de l'église, avec les différents ministères, etc. Et puis, alors moi, évidemment, la terre et tout ce qu'elle contient sont au Seigneur, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. On entend, et moi c'est ce que j'aurais envie de dire pour finir, la citation dont on avait cherché les références la dernière fois, et que j'avais commenté ici lors d'une nuit de l'éthique, « Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. » Et je ne sais jamais où c'est. Ça y est, on va encore... on s'est posé la question la dernière fois. Effectivement, dans le « tout est permis », moi, j'entends « tout est à vous ». C'est-à-dire, oui, vous pouvez être hindou et chrétien, vous pouvez aller faire un stage de zen. C'est pas ça qui va ébranler votre foi si vous le faites pour précisément aimer davantage, être plus disponible à l'autre. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ. Rappelez-vous, vous ne vous appartenez plus. Vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il tient à la fois cette liberté incroyable, infinie, à l'image de la liberté divine, et en même temps, l'appartenance au Christ. Et ça, c'est là que c'est un très grand théologien. Parce qu'un mauvais théologien, il lâche toujours. Comme dirait Lacan, il cède sur quelque chose. Paul ne cède sur rien. Il tient tout. Il tient la liberté et il tient l'appartenance au Christ. Et ça, et c'est crédible parce qu'il le vit. C'est un homme complètement libre. Quand il prend le bateau, il pourrait ne pas le prendre. Et en même temps, il appartient à quelqu'un d'autre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, etc.
1 Corinthiens 3, 23.
Ça 23. Alors, donc c'est encore dans la même... Cette fois-ci, on saura... que c'est
3,
voilà. Donc l'épître aux Corinthiens, donc c'est l'épître de la liberté. Effectivement. Ah ben oui, c'est là les fameuses questions, qu'est-ce qui est à Apollos, qu'est-ce qui est à Paul? Voilà. Qui est Apollos, qui est Paul? Bon, bah, j'imagine que c'est là-dedans.
Eh bien, donc, je crois que c'est un peu le mot de la fin, je crois, sur ce...
Tout est à vous.
Sur voilà. Ce passage, voilà. Sur ce passage, cet appel à une liberté vraiment créative, je crois. Et donc, on se retrouvera le 13 mai, donc, à Saint-Eustache, donc, 2 impasse Saint-Eustache, avec les actes des apôtres, hein, avec acte 2. Tous et toutes prophètes par l'esprit, donc c'est la Pentecôte, en gros.
Oui, les actes que nous entendons maintenant, puisque nous sommes dans le temps pascal, donc... Joyeuse Pâques à tous, nous sommes dans le temps pascal et nous entendons ce récit des actes qui est toujours aussi fascinant, un geste des chrétiens.
Merci, bon retour.
Merci.